Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Ce sera le dernier d'ailleurs avant les vacances, donc voilà, faudra couvrir un champ qui est assez large, puisque je comptais peut-être éventuellement intituler cette vidéo ni plus ni moins que la fin de la social-démocratie. C'est-à-dire que c'est un champ assez large. Donc nous allons parler de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Canada, parce que le Canada aussi est en crise politique. Alors tout d'abord, je voudrais faire un petit clin d'œil.
L'Angleterre aussi.
L'Angleterre aussi, oui, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais faire un tout petit clin d'œil à un des fidèles de l'Institut des Libertés, Xavier, qui m'a offert cette tasse. Donc la fameuse tasse avec le schéma de Nicolas 30 ans, que les habitués de Twitter connaissent bien, je pense. Donc merci à lui. Donc tout d'abord, nous allons discuter de la France.
Et merci à vous d'être fidèle,
Bien
d'être,
sûr.
de, si j'ose dire, écouter ce que nous avons à dire. Alors, de temps en temps, il y a une certaine unanimité des gens qui trouvent que ce qu'on a dit est bien. Et puis, de temps en temps, quand on parle de religion ou de choses comme ça, du Moyen-Orient, qui est un endroit un peu difficile à analyser, mettons que l'unanimité soit dans l'autre sens.
Oui, voilà, c'est un
Alors,
peu plus
ça fait
partagé, ouais.
partie de ce qu'est une démocratie. C'est peut-être pour ça que ceux qui nous insultent, parce qu'il s'agit d'insultes, ont du mal à comprendre quand on parle du Moyen-Orient ou de la religion musulmane. C'est que, étant un bon catholique, je suis tout à fait conscient que l'Église catholique a fait des erreurs dans son histoire. Mais c'est pas pour ça que quand les gens disent du mal de l'Église catholique, ils en ont le droit. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai le droit constitutionnel de dire du mal de qui je veux, à condition que je justifie, si les gens me le demandent, le pourquoi de la chose. Mais il faudrait quand même que des tas de gens comprennent que ne pas être d'accord avec beaucoup d'aspects de la religion musulmane, je serais pas le premier, je serais pas le dernier. Par exemple, un homme tout à fait éminent, comme Voltaire, était parfaitement contre la religion musulmane. Et plus récemment, vous en avez eu également beaucoup, comme le professeur de Bordeaux, qui s'appelait Ellul, Jacques Ellul, un homme éminent, qui a écrit beaucoup sur la société industrielle. Il y a des chaires aux États-Unis qui sont des chaires Ellul, etc. Donc, et c'était un protestant, il faisait partie de la revue Esprit, de la diriger, qui est la revue du monde protestant. Il a dirigé pendant des années. Il avait fait partie, je crois, vous savez, rassemblement à la fin de la guerre qui avait mis au point toutes les histoires de social-démocratie. Il était très à gauche. Et il a fait une grande réunion entre lui, il y a une quarantaine d'années, et le recteur de la mosquée Al-Azhar, au Caire, je crois, pour savoir si la démocratie était compatible avec la religion musulmane. Et les deux, y compris le recteur de la mosquée, de Al-Azhar, qui est un peu la grande mosquée sunnite, avaient convenu que la démocratie n'était pas compatible avec la religion musulmane. Donc, je suis pas le seul à le penser. Et l'expérience historique semble en effet montrer que la religion musulmane a du mal à engendrer des démocraties. Il y en a parfois une ou deux, mais enfin. Donc, encore une fois, quand vous êtes d'une religion, je sais bien que dans votre religion, on n'a pas le droit de critiquer le prophète. Mais ça, c'est votre religion et je m'autorise à critiquer qui je veux. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte sur la religion musulmane, qui a bien des problèmes, comme tout le monde le sait, personne ne vous force à écouter ce qu'on a raconté. Vous êtes libre d'écouter, vous êtes libre de mettre vos commentaires, mais s'il vous plaît, essayez d'économiser les insultes.
Oui, c'est toujours les désaccords ne sont pas désagréables, mais les insultes un petit peu plus.
Un petit peu plus. Et encore une fois, si vous voulez, dans votre religion, celui qui critique le prophète, je crois qu'on le condamne à mort.
Oui, l'espérance de vie est un peu limitée. Oui,
voilà, surtout dans les pays musulmans d'ailleurs.
Voilà. Pour revenir à la France, François Bayrou a été nommé à Matignon. Oui. Rassurez-vous, nous n'allons pas en parler pendant une heure.
Bayrou de secours, comme dit.
Bayrou de secours, voilà, tout à fait. Alors, je rappelle un petit peu les faits. Déjà, je renvoie les gens vers, je l'ai lu l'autre jour, vers une tribune de Maurice Druon contre François Bayrou, je l'ai sous les yeux, qui avait été publié en 2004 dans le Figaro. Ça s'appelle « Desservir la France ». Donc voilà, tapez « Desservir la France » Maurice Druon sur Internet, vous la trouverez assez facilement. Je l'ai dessus, elle est, je l'ai devant les yeux, elle est absolument phénoménale, cette tribune. Donc voilà, je vous renvoie dessus, je vous mettrai peut-être un lien.
Maurice Druon, c'est celui qui avait écrit les « Rois maudits ».
Oui, voilà, donc académicien.
Académicien. Il était secrétaire général de l'Académie, je crois aussi. Et c'était le neveu de Kessel.
Ah oui, ça, je ne savais pas. Ah oui,
c'était d'accord. Le frère de Kessel. Avait fait un enfant à une femme. Et il s'est suicidé, le jeune frère. Et cette femme a été épousée a épousé un monsieur Druon qui a d'accord. reconnu le petit.
Ok, d'accord, ok, je ne savais pas du tout.
Ils se ressemblaient d'ailleurs, physiquement, ils se ressemblaient.
Oui. D'accord. Donc, je rappelle les faits. Samedi dernier, Macron a nommé François Bayrou à Matignon. Durant la nuit, vers 5h du matin, selon toute vraisemblance, c'était France Info qui avait lâché cette information.
Ils dorment pas, ces gens-là ?
Non, ils dorment pas.
Ils devraient, hein.
Enfin, c'est-à-dire qu'à 5h du matin, il semblerait, Emmanuel Macron a appelé François Bayrou pour lui dire qu'il ne serait pas Premier ministre. Le lendemain matin, enfin le matin même par conséquent, ils ont eu les deux un entretien de presque 2 heures à l'Élysée, au terme duquel les lieutenants de François Bayrou ont dit que si Bayrou n'était pas nommé à Matignon, ce serait quand même une énorme trahison. Ce qui en général ne se passe pas quand il s'attend à être nommé. On est sur la défensive, on s'attend plutôt à ne pas être nommé. Et d'ailleurs, tout le monde, tous les journalistes disaient que cet entretien s'était très mal passé, etc. Donc, en plus de ça, Roland Lescure devait aussi passer à l'Élysée le matin même. Et donc, voilà, selon toute vraisemblance, c'était Roland Lescure, donc vice-président de l'Assemblée nationale, qui allait être nommé à Matignon. Et François Bayrou a fait un coup de pression sur Emmanuel Macron en lui disant « Si je suis pas nommé à Matignon, je retire le soutien du MoDem à la majorité, entre guillemets, présidentielle. » Donc en fait, en quelque sorte, il s'est un peu nommé tout seul, ce qui est à ma connaissance sans précédent.
À quel point nous sommes arrivés dans un état de déliquescence totale, c'est-à-dire que l'un des rares pouvoirs qui restait à M. Macron après tous ses échecs, c'était celui de nommer le Premier ministre, et il a suffi que 30 députés se disent prêts à trahir la Constitution, ce qui est curieux de la part de députés.
Oui.
Pour que il se couche.
Oui, oui, absolument.
Ben écoutez, ça prouve l'état de délabrement total dans lequel nous sommes, quoi.
Ouais. Et alors, vous connaissez, vous avez vu François Bayrou depuis longtemps dans ce milieu politique. Qu'est-ce qui vous évoque de prime abord? C'est le type qui a tenté, je sais pas combien de présidentielles depuis 2002. À chaque fois, il se voit beaucoup plus important qu'il ne l'est. Et enfin, il arrive à Matignon à une fonction assez importante, alors qu'il n'avait pas été ministre depuis 30 ans. Il avait été ministre à l'époque
de l'Éducation nationale,
en 93. Il n'avait rien fait, voilà. Bah d'ailleurs, Maurice Druon en parle. Il parle du fait que il s'était attaché à la question de l'illettrisme et que pendant son mandat à l'Éducation nationale, l'illettrisme n'avait fait qu'augmenter justement.
Donc, je voulais. C'est extrêmement difficile de porter un jugement sur le néant.
Ouais. je vous l'accorde.
Donc, je serai. C'est un de ces gars, si vous voulez, dont on ne comprend pas très bien pourquoi il est élu, par qui d'ailleurs, je me demande, même Auberge, je me demande pourquoi les gens votent pour lui. Et puis, quelque part, on s'attend d'un homme politique qu'il porte un projet, qu'il soit habité, qu'il incarne quelque chose. Lui, il incarne...
Il incarne absolument rien. Il incarne effectivement la négation d'idées, c'est-à-dire qu'il s'est toujours vu entre guillemets, au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'il a, il a jamais été d'accord ni avec les idées de droite, ni avec les idées de gauche. Donc, en fait, avec aucune idée, tout simplement. Il a jamais été... Enfin, voilà. À chaque fois, c'était le type qui voulait faire un petit peu son intéressant, qui appelait... qui faisait des tout petits coups politiques en appelant, par exemple, à voter pour Ségolène Royal.
C'est lui qui a fait élire Macron. C'est lui qui a fait battre Sarkozy.
Ouais.
Donc, le... Les longues périodes de mauvaise gouvernance, c'est pas que Sarkozy aurait dû être élu, non, mais quand même, c'est le traître de comédie, quoi. Vous savez, c'est le type qui, vous savez, dans la classe, quand il y a, vous savez, il y a un peu de chahut et tout, il y en a toujours un qui vous donne un coup de pied dans le dos parce que, comme pendant que vous regardez pas, vous voyez, c'est lui, quoi.
C'est un peu ça.
C'est le traître de comédie. Il est grotesque.
Ouais. C'est même pas le méchant. C'est juste le petit traître, un peu le sous-fifre.
C'est le. Non, il a pas la carrure d'un traître en chef.
Ouais.
Ouais. C'est juste un traître.
Et alors, pour rappel, quelques sondages du moment, François Bayrou a 24% d'opinion favorable, 67% des Français pensent que le futur gouvernement Bayrou ne permettra pas de trouver une stabilité politique, et en même temps, 6 Français sur 10 aussi souhaitent une démission d'Emmanuel Macron. Quel est le niveau de légitimité actuel du président et du gouvernement? Parce que c'est quasi nul.
Ils n'ont aucune légitimité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Constitution de la Ve reposait sur un doublon. C'est-à-dire, le premier, c'était que si le président n'était plus légitime, il s'en allait.
Oui.
On a bien vu qu'avec Mitterrand et Chirac, ils ne sont pas partis.
Oui.
Donc, Mais le deuxième qui était très important, c'était le recours par le président au référendum.
Oui, absolument.
Qui permettait de voir... Parce qu'il nous posait un référendum, je sais pas quoi, sur la rentrée du Zimbabwe dans la construction européenne, un truc comme ça. Ça n'a aucune importance. Et à ce moment-là, les gens pouvaient voter pour contre le. En fait, il nous posait un référendum, mais on lui disait on t'aime plus, quoi.
Oui.
Et Chirac n'est pas parti quand il avait fait le référendum sur l'Europe.
Ouais.
Sarkozy nous l'a imposé alors qu'on n'en voulait pas.
Ouais.
Donc. Nous sommes dans une situation paradoxale en France où les gens qui sont au pouvoir sont légaux, mais ils ne sont pas légitimes.
Oui.
Et c'est gros, de très gros problèmes, parce que ces gens qui sont au pouvoir, il n'y en a pour ainsi dire pas un seul qui a la légitimité pour s'attaquer aux vrais problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'attaquer aux vrais problèmes, ils vont continuer à faire de la poudre aux yeux. Mais quand vous regardez les chiffres, ce que j'ai fait ce matin avec Emmanuel, quand vous regardez les chiffres, le temps... où on pouvait botter en touche et fini, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire les... Donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est le moment où un homme qui serait président de la République devrait dire aux gens, écoutez les enfants, à partir de maintenant, c'est du sang et des larmes, quoi. Hein.
Ouais.
C'est comme Churchill en 1940, il n'aura pas dit que ça allait être une partie de rigolade.
Ouais,
il aura dit du sang et des larmes. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire croire qu'il va y avoir pas de sang et pas de larmes, mais on rentre dans la période de sang et des larmes. Et c'est pour ça qu'on arrive à la fin de l'horreur.
Oui, c'est-à-dire c'est
dans l'horreur.
C'est justement l'apothéose de la fin de ce régime. Ne pouvait pas trouver mieux, je pense, comme personnage que François Bayrou. Cette espèce d'animal rampant de la politique qui a jamais rien fait, qui a jamais contribué à quoi que ce soit, qui a toujours essayé de se mettre dans la roue de quelqu'un pendant 40 ans avant de se mettre lui-même, de se voir président de la République depuis 2002. Il avait fait l'élection de 2002, 2007, 2012. Il avait tenté 2017 avant du coup de se rallier à Emmanuel Macron. Il a déjà dit il y a quelque temps qu'il comptait se représenter en 2020. Alors probablement que lui est persuadé que c'est un génie de la politique qui va régler totalement la situation, qu'il va mettre les Français derrière lui et qu'il va pouvoir se mettre en 2027.
C'est peut-être ce qu'il croit, mais ce qui m'a toujours surpris, moi, c'est... J'en avais discuté avec un jour un homme qui s'était présenté à la présidence de la République, qui était relativement éminent, et qui disait, il faut être complètement cinglé pour penser qu'on est compétent pour faire ce rôle-là, parce que c'est un rôle tellement écrasant... Il faut déjà être un petit peu malade, quoi,
oui,
dans sa tête. Et donc, vous voyez cet homme-là qui n'arrive pas avec humilité devant une tâche aussi extraordinaire, il arrive avec j'y ai droit.
La plus grande preuve, c'est qu'il a voulu absolument s'imposer à Matignon, probablement au pire moment de toute l'histoire de la République, de la Ve République, pour être à Matignon, quoi. C'est une mission impossible.
Et qu'il a, bon, il a 30 députés, c'est bien. Enfin, j'en sais rien, c'est bien d'ailleurs, mais on cherche, si vous voulez, les victoires qu'il a remportées, les batailles qu'il a menées, les...
Je ne vois pas.
Et c'est encore une fois un peu une expression d'un joueur de rugby, si vous voulez. Il a des épaules de serpent, quoi.
Ouais. Je ne peux pas citer une seule idée de François Bayrou. J'en serais absolument incapable. Je ne connais pas sa ligne politique en dehors de se dire ni de droite ni de gauche. C'est juste le nom binaire de la politique, mais sinon, à part ça, je ne sais pas en quoi ça consiste.
Il y a une vieille phrase que j'aime beaucoup, c'est « à partir de 30 ans, on a la gueule qu'on mérite ». C'est pas joli.
Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et à votre avis, ce gouvernement, il a une espérance de vie de combien de temps?
Parce que ça aussi, vous savez, il faut jamais dire ça, parce que on sait jamais. Ce genre de gars, ça peut se maintenir par toutes les compromissions, les trucs, le machin. Mais le vrai problème, ça va être le budget. S'ils essayent de présenter un budget où ils augmentent les impôts, il va retomber, quoi. Il va rejeter.
Oui, très
probable. Donc la vraie question... c'est est-ce qu'il va présenter un budget où il n'y a pas d'augmentation d'impôts?
Ouais.
Mais à ce moment-là, ça veut dire un budget où il y aura des coupes profondes.
Ouais.
À ce moment-là, je serais plutôt pour. Mais s'il fait un budget où il n'y a pas d'augmentation d'impôts, où il n'y a pas de coupes profondes, ce qui est probablement ce qu'il va essayer de faire,
ouais.
Je ne vois pas à quoi il sert.
Ouais, absolument. Ouais, non, mais moi, je ne vois pas passer le... Peut-être le mois de février, éventuellement, mais sinon, je ne vois pas passer le mois de janvier.
Et le président qui dit, de toute façon, je ne dissoudrai pas l'Assemblée jusqu'à la fin de mon mandat. Mais,
ouais.
Donc, il nous garantit qu'on aura un pouvoir légitime, illégitime encore pendant 2 ans et demi.
Ouais.
C'est quand même bizarre. Donc, ces gars-là résonnent dans le cadre, si j'ose dire, du petit monde politico-médiatique. Et il n'y en a pas un qui pense... à notre pays et aux petites gens de notre pays. Ce que j'ai montré dans l'article de cette semaine, si vous voulez, c'est que le niveau de vie des gens les plus pauvres en France s'est écroulé de 12% qui étaient les plus pauvres. Donc avoir une baisse de 12% de votre niveau de vie depuis que l'euro existe, ça s'était jamais produit dans l'histoire de France. Donc vous avez, mettons, un quart de la population, y compris les paysans, qui est dans un état de désespoir et de dénuement total. Et on nous met Bayrou? Je sais pas, moi.
Moi non plus, je sais pas. Mais finalement, il y a beaucoup de sondages sur qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Bayrou, machin, enfin de la nomination de François Bayrou. Je pense que déjà la majorité des Français n'en ont absolument rien à faire de qui est à Matignon en ce moment. En fait, ça n'a aucune véritable importance parce que tout ce monde-là résonne à chaque fois en conditions normales, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé depuis 60 ans à peu près dans la 5e République.
Ils vont pouvoir emprunter, ils vont pouvoir... Bayrou doit s'imaginer qu'il va donner quelques carottes aux syndicats, quelques trucs et tout, et que ça va passer, qu'on va le laisser tranquille. Mais là, c'est fini, maintenant on arrive à un moment où la réalité... et de retour.
Ouais.
Ça fait 40 ou 50 ans qu'il gouverne dans la brume et le mensonge, mais je crois honnêtement que le temps du mensonge est fini, quoi.
Ouais. Oui, et puis il y a à la fois ceci et puis une ambiance de fin de régime, c'est-à-dire fin de régime d'Emmanuel Macron et fin de régime en fait de la 5e République globalement. Et ça, tout le monde le sent, que ce soit dans la classe politique ou dans la population. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a eu la première motion de censure qui est passée depuis 62 ans. S'il s'est pas passé pendant 62 ans, c'est bien qu'il y avait une certaine stabilité qui s'est maintenue pendant un moment, même si ces dernières années c'était un peu artificiel. Mais là, même l'artificialité ne tient plus. Et ce sera exactement pareil avec le gouvernement Bayrou, selon moi. Et c'est même pas sûr qu'il y ait finalement, peut-être qu'il y en aura un, mais c'est même pas sûr qu'il y ait un Premier ministre après François Bayrou. Ça peut aller très très vite, les fins de régime.
En principe, oui, c'est comme de se ruiner, comme disait Oscar Wilde. Au début, ça va lentement et à la fin, ça va vite. Je crois qu'on est dans une période d'accélération de l'histoire. Et imaginons que l'administration Trump, avec les gens qu'elle a autour d'elle, qui sont tous plus éminents les uns que les autres, et qui l'ont prouvé dans leur vie de tous les jours, réussissent à nettoyer les écuries d'OGAS à Washington et qu'il y a un certain nombre de dossiers qui soient portés sur la place publique qui concernent l'OTAN, qui concernent la façon dont les États-Unis ont mis la pression sur l'Allemagne, la France, etc., ça deviendra difficile pour ceux qui apparaîtront comme ayant été vendus aux États-Unis de rester au pouvoir, quoi. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire de façon diplomatique, c'est que si Trump veut se débarrasser de Macron, il a tous les dossiers pour le faire.
Ouais. Ouais. Bah, c'est déjà peut-être ce qui va se passer aussi avec Justin Trudeau. On en parlera dans quelques instants.
Oui, et avec l'Allemand.
Ou avec l'Allemand. Bah justement, c'était mon sujet suivant, c'était l'Allemagne, puisque je sais pas trop quoi dire d'autre sur François Bayrou, puisque c'est une absence de sujet.
L'Allemand en sport. Hein.
Et donc, la situation politique en Allemagne, elle est aussi assez instable. On a une chute de la coalition gouvernementale, puisque bah, c'était hier, tout simplement, où le chancelier allemand avait demandé un vote de confiance à l'équivalent de l'Assemblée nationale allemande, donc au Bundestag. Et par conséquent, il n'a pas eu cette motion de confiance. Et donc, ça veut dire des nouvelles élections, des élections anticipées qui devraient donc avoir lieu en fin février 2025.
Et tout ça, c'est le résultat des imbécilités de Mme Merkel. Parce que ce qu'on ne dit pas, et je voudrais y revenir une fois encore, c'est que les gens font des erreurs en ne prenant pas des décisions, ce qui a été, ou en prenant des mauvaises décisions. Et pendant 10 ou 15 ans, Mme Merkel est apparue comme un génie politique.
Ouais.
Mais quand elle fermait le nucléaire, quand elle laissait rentrer 2 millions de Syriens, elle prenait des décisions lourdes. Et c'est maintenant que ces décisions lourdes sont en train de faire sauter l'Allemagne. Donc je trouve que c'est un peu comme cet animal de Mitterrand avec sa retraite à 60 ans qui nous a mis sur un terrain, on ne réussit pas de sortir. Donc ces gens qui prennent des décisions, qui foutent en l'air leur pays 30 ans plus tard, mais qui leur permettent d'être réélus, c'est quand même embêtant.
Ouais. Et alors, ce qui se passe cependant en Allemagne, c'est un petit peu étrange, parce que effectivement, en fait, Olaf Scholz, alors lui, il a une coalition de gouvernement qui est une coalition tricolore, c'est-à-dire avec le SPD, c'est-à-dire un peu le parti social-démocrate classique, les Verts, donc les écolos, et le FDP. Et ceux
les
qui
FDP,
sont...
c'est des libéraux.
Oui, voilà, c'est les centristes. Et ceux qui... c'est un peu le modem allemand. Et ceux qui sont plutôt... ceux qui ont la cote dans les sondages, alors bien sûr, il y a l'AFD qui monte beaucoup, mais ils sont pas premiers. Ceux qui sont devant, c'est la CDU. Donc la CDU, c'était aussi l'ancien parti de Merkel. Donc là aussi, est-ce qu'on n'est pas... on n'a pas une situation, finalement, un peu comme Romuni en juillet dernier, où finalement, on a une population... qui est orienté plutôt vers la droite. Alors techniquement la CDU est considérée comme à droite, mais enfin il n'y a aucune différence profonde et réelle avec le gouvernement actuel.
C'est pour ça que vous avez trois partis mais qui risquent de gagner. Vous avez donc l'AFD qui est robustement nationaliste, quoi, ce qui évidemment fout la trouille à tout le monde en Allemagne.
Ouais.
Vous avez un parti de gauche, je ne sais plus très bien comment il s'appelle, qui est tout à fait à gauche, mais violemment contre l'immigration.
J'ai plus le nom, mais je vais
donc ça peut faire des surprises aussi.
Ouais.
Et vous avez le troisième parti, qui est la CDU, et qui maintenant... la plus grosse partie de la CDU, c'est des Bavarois.
Oui, c'est le BSW, le nouveau parti de gauche.
Ouais. Donc les Bavarois, ils ont toujours été tout à fait à la droite de la CDU. Oui. Donc, et Mme Merkel n'était pas du tout du côté de ce coin-là, à l'arrivée de l'Allemagne de l'Est.
Oui.
Et c'était une bonne... elle était très, très à gauche pour la CDU, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'avoir un bouleversement à droite, mais quel que soit le résultat des élections, si vous regardez la situation allemande, vous voyez bien que toute la population demande un durcissement de la politique monétaire, un durcissement de la politique d'immigration, et qu'il y a une espèce de consensus qui va se faire là. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui se sait en difficulté économique, va essayer de s'en sortir en épargnant plus. En se disant, on va se mettre au boulot, les gars. Et en face, en France, vous avez des gars avec M. Bayrou qui n'ont aucune idée, c'est de continuer dans la vasouille. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'euro que vous avez l'Allemagne qui veut vraiment serrer et la France qui veut continuer à faire n'importe quoi. Autrefois, la France faisait n'importe quoi, mais l'Allemagne était vaguement normale. Mais avec le coût de la guerre en Ukraine et de la hausse du coût de l'énergie, l'économie allemande est en train de s'effondrer. Et donc, l'Allemagne, il va falloir qu'elle serre. C'est un peu comme en 1945, où il y avait Erhard qui avait tout libéré en Allemagne, les prix, etc. Et puis la France, où on avait mis les inspecteurs de finances, des contrôles des prix, etc. Ce qui fait que c'était le début de la grande hausse du mark contre le franc, qui n'a cessé pendant jusqu'à l'euro. Et donc, pour moi, si vous voulez, il y a une espèce de contradiction fatale entre les deux principaux pays dans la direction choisie par la classe politique. Quoi. Et je ne vois pas comment ça peut tenir. C'est-à-dire que... il me semble que la BCE va refuser de financer la France.
Donc ça veut dire, oui, on
je ne sais pas comment ça passe dans les marchés à ce moment-là.
Oui.
C'est-à-dire, si l'Allemagne sert et que la France ne sert pas, l'euro devient intenable.
Oui. Et à la fois, d'un autre côté, si la BCE dit de toute façon, quels que soient les problèmes de la France, on va l'aider, ça va être aussi un gros problème de confiance dans l'Union européenne à long terme.
Ah bah c'est que l'Allemagne n'acceptera pas à ce moment-là.
Exactement.
Parce que ça veut dire que les obligations allemandes continuent à s'écrouler, que le niveau de vie continue à s'écrouler, que les fonds de pension sont ruinés. C'est même pas possible.
Parce qu'en plus de ça, l'AFD, eux, ce qu'ils disent, c'est ils veulent qu'on organise un référendum sur la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne. Ouais. Alors l'idée d'un exit, c'est pas du tout populaire en Allemagne. On peut le comprendre. Aujourd'hui, c'est quasiment les patrons de l'Union européenne. Mais après, ça peut monter très vite.
Les patrons de l'Union européenne, mais ils ont eu au pouvoir toute une série de gars qui, curieusement, ont beaucoup défendu les intérêts de l'Allemagne et assez peu les intérêts de l'Europe. Donc, c'est fait partie c'est comme on l'a vu avec EDF, par exemple.
Exactement.
On a fait des émissions. Donc, et puis aujourd'hui, vous voulez, Madame von der Leyen, elle devrait être en prison, quoi. C'est, mais on réussit pas à la juger parce que je ne sais pas quoi, mais.
Oui, je sais pas pourquoi non plus, mais enfin bon.
Elle doit avoir le même avocat que Madame, Sauvageau, là, celle, celle qui était chez Areva, vous savez.
Ah oui,
bref. Oui, bref, je retrouverai le nom, mais.
Ouais.
Vous savez, ces grands caciques des États qui sont à un niveau où ils ne vont pas se faire embêter par la justice, quand même.
Oui, oui. On n'est pas à ce niveau-là.
On n'est pas à ce niveau-là. Quand même.
Ouais, c'est clair. Enfin voilà, pour donner un ordre d'idée, je vous mettrai de façon une photo à l'écran. Aujourd'hui, dans les sondages, la CDU est à peu près à 31-32%. L'AFD côtoie les 20%, c'est-à-dire deux fois plus qu'aux élections précédentes qui étaient en 2021. En plus de ça, on a le BSW qui est un parti de gauche, gauche plutôt populiste, c'est-à-dire plutôt anti-immigration, assez anti-OTAN aussi, qui est à 8%. Et puis après, on a les Verts, le FDP, le SPD, qui a beaucoup chuté depuis 3 ans. Et donc, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on aura en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est pas dit que cette élection règle les problèmes de l'Allemagne, notamment s'il se comporte un petit peu comme ceux au Royaume-Uni actuellement. En fait,
ce qu'il y aura d'embêtant, c'est tout de légitimité. Si toute l'ancienne Allemagne de l'Est vote AFD.
Alors, tout à fait, oui, je voulais en parler.
C'est un truc, si toute l'ancienne Allemagne de l'Est vote AFD, ça veut dire, ça y est, on va recréer l'Allemagne de l'Est.
Ouais, absolument. Je voulais en parler aussi parce que il y a des grosses dissensions au niveau politique et électoral par rapport à ça. C'est-à-dire que l'ancienne Allemagne de l'Ouest n'est pas du tout pro-AFD. Quand elle vote à droite, elle vote CDU. Alors que l'Allemagne de l'Est, quand elle vote à droite, elle vote AFD. Et pour le coup, elle vote AFD à 30%, pas à 15%. Et sur des questions comme l'immigration ou l'Ukraine aussi, qui prend de plus en plus de place dans la politique en Allemagne, dans l'opinion, ils n'ont pas du tout les mêmes...
Ils vont perdre leur boulot en Allemagne parce que le prix de l'énergie est hors de prix, à cause de la guerre en Ukraine, que les Américains ont imposé aux Allemands, et à ce moment, et ils ont imposé aussi la fermeture du gaz, ils ont fait sauter même les pipelines, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous voyez tous ceux qui vont perdre leur boulot, ils trouvent que l'Ukraine, ils en ont rien à foutre. Quoi.
Bah oui,
ils auraient préféré garder leur boulot. Quoi.
Ouais. Et en plus de ça, le patron actuel de la CDU, donc c'est Friedrich Merz. Lui, il est carrément favorable à l'envoi de troupes en Ukraine, donc des soldats allemands. Il est favorable à l'envoi d'armes
lourdes. Ça réussit rarement à l'Allemagne. Hein.
Ouais.
Alors. Je dis rien, mais aussi.
Effectivement, si on regarde l'histoire.
C'est ils n'ont pas trop bien réussi à Napoléon. Enfin, c'est pas une bonne idée d'envahir la Russie. Hein.
C'est pas terrible. En général, les Allemands, ils ont un peu de mal avec la Russie. De toute façon, tout le monde a un peu de mal avec la Russie, mais les Allemands,
c'est pas une bonne idée. Hein.
Non, effectivement. Là-dessus, sur l'envoi de soldats, par exemple, 67% des Allemands de l'Allemagne de l'Est s'y opposent, alors que ce chiffre tombe à 49% en Allemagne de l'Ouest. Ce qui reste quand même assez beaucoup, parce que c'est la partie vraiment la plus à gauche, la plus progressiste de l'Allemagne, quoi. Et ce qui va être intéressant, ça va être peut-être pas tellement de regarder tous les résultats au niveau national. Là, je vous ai cité les 31%, les 20% pour l'AFD. C'est de voir que en Allemagne de l'Ouest, l'AFD va faire 10 ou 12%. Et ailleurs, en Allemagne de l'Est, ils vont faire 35-40, quoi.
Et il va y avoir aussi probablement beaucoup d'abstentionnistes, parce que si vous voyez aussi bien les Verts que tout ça, ils se disent, mais j'ai aucune chance, mais je vais pas aller voter pour eux. Donc, je suis certain que les gars de l'AFD vont aller voter. Le reste, j'en suis moins sûr.
Ouais, c'est clair. Enfin voilà, on est dans une crise politique déjà au niveau national, mais aussi au niveau territorial, parce qu'il y a des grosses disparités. On avait parlé d'il y a quelques mois des élections, notamment en Thuringe, où l'AFD était montée très 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 haut, largement la plus grosse force politique du Länder, mais il n'allait toujours pas gouverner, parce qu'en fait il y avait une alliance d'absolument tout le monde contre l'AFD, et donc ça risque pas de repartir. Ça, l'AFD va continuer de monter, et d'ailleurs plus tout le monde se s'allie contre l'AFD, plus en fait ça lui donne une espèce de légitimité en quelque sorte.
Donc, connu ça en France aussi.
Oui, exactement. Ça démystifie un peu le truc de les laisser participer un peu au gouvernement, surtout des petits gouvernements locaux. Ça, franchement, ça n'a pas tellement d'importance. Ça va pas être le retour du fascisme, quoi. Enfin voilà. Ensuite, je voudrais reparler du Royaume-Uni, même si on avait déjà fait une émission récemment entièrement sur le Royaume-Uni. Donc on avait parlé notamment de la crise de popularité de Keir Starmer, du fait qu'il avait fait un discours aussi un peu plus musclé que d'habitude sur l'immigration pour espérer regagner des points dans les sondages. Alors sans grand succès, ça n'a eu absolument aucune retombée positive.
Il y a eu quelques affaires où il y a eu encore des gens qui ont été tués par des immigrés, etc., qu'on a essayé de dissimuler, de cacher. Donc ça fait le plus mauvais effet. On a l'impression que en Angleterre, il y a deux droits, si vous voulez, celui pour les locaux et celui pour les immigrés. S'il y a un truc qui agace les Anglais, qui ont inventé la notion de l'égalité de tous devant la loi, c'est justement que de plus sentir qu'il y en ait de certains qui soient plus égaux qu'eux. Devant la loi anglaise, quoi, ça les agace.
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez prégnant en Angleterre depuis longtemps, sauf que jusqu'à récemment, ils pouvaient espérer dans l'idée que le Parti conservateur peut-être allait pouvoir s'occuper de cette question. Visiblement, ce n'est pas le cas.
Ils ont été 14 ans au pouvoir, je ne sais plus combien, et le nombre d'immigrés n'a cessé d'augmenter.
Ouais.
Parce que c'est toujours la même chose, c'était un peu comme le Parti républicain aux États-Unis. Vous avez des républicains de bonne qualité qui sont pour la démocratie locale, etc. Et puis vous avez l'État profond a placé aussi toute une série de gens dans chacun des deux partis.
Oui.
Et donc il y a toute une partie des conservateurs qui étaient des conservateurs, si j'ose dire, plutôt mous.
Oui. Aujourd'hui, il y a énormément de contestations en interne au Parti conservateur. Beaucoup de gens disent oui, mais ok, c'est le Parti conservateur, mais enfin, il n'a de conservateur que le nom. Il ne conserve rien d'autre.
Il n'a pas arrêté. Et surtout, les vrais conservateurs ont été trahis avec une rapidité extraordinaire.
Ouais, c'est clair.
Donc si vous voulez, on avait ce système où on faisait élire des gens qu'on disait au peuple, c'est vous allez voter pour lui là, en disant c'est un conservateur, puis on disait c'est Fabius, c'est Juppé, là, c'est un conservateur, Juppé, puis on mettait le même à côté en disant ça c'est Fabius, c'est pareil, vous allez voter pour lui si vous êtes de gauche.
Ouais.
Et donc, ça fait des années qu'on ne vote plus pour des gens qui émergent, mais pour des gens qu'on nous désigne. Et à ce moment-là, ça amène toujours à une crise de la représentativité et donc de la légitimité. En Angleterre, ils ont une énorme crise de la légitimité aujourd'hui.
Absolument. Et donc, ça, on avait reparlé donc des résultats des dernières élections. Et alors, j'ai trouvé un truc assez intéressant. Récemment, en Angleterre, il y a eu tout un tas de petites élections locales. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des council by elections. Donc, c'est des petites élections mineures pour des postes vacants au sein de conseils locaux, quoi. Et le Reform, donc
c'est
le parti
de Nigel Farage,
a affiché une progression de 11% sur toutes ces petites élections par rapport au score des dernières élections générales, donc ceux de juillet dernier. C'est il n'y a pas si longtemps.
Ce qui est suffisant sans doute pour le faire passer pas très loin de la tête, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que le Labour, quant à lui, a perdu 10 points et toutes les autres formations politiques se sont à peu près maintenues. Et donc, dans les autres sondages nationaux, j'en ai vu un notamment récemment, qui disait que le Parti conservateur était mesuré à 26% d'intention de vote au niveau national, le Reform à 24% et le Labour à 23%. Donc, en fait, on est. C'est-à-dire, il suffit d'un petit gap finalement que le Reform doit franchir, c'est-à-dire en fait il doit remplacer dans l'idée de beaucoup d'anglais, notamment à droite, il doit remplacer déjà le Labour pour beaucoup de gens, parce que c'est ce qui a permis à Boris Johnson d'avoir une telle majorité en 2019, c'était le soutien de Nigel Farage. Donc il doit, en fait, d'ailleurs c'est ce que montre un peu ce truc de council by elections. Le Labour a perdu 10 points, le Reform a gagné 11 et les autres se sont maintenus, donc c'est bien qu'il y a eu un transfert comme ça de l'un à l'autre.
C'est-à-dire que dans le fond, autrefois, les petites gens votaient à gauche, mais comme je le dis toujours, le problème c'est que la gauche a trahi le peuple et la droite a trahi la nation. Chez nous, en Angleterre, donc il y a toujours des gens qui votent à droite parce que pour eux, le conservateur c'est quand même Churchill, c'est quand même. C'est quand même le Commonwealth, tout ce que vous voulez. Mais à gauche, de plus en plus, dans beaucoup de pays en Europe, la gauche est perçue comme le parti qui a trahi le peuple.
Ouais.
Partout.
Ouais.
Et ça veut dire qu'ils sont en chute libre, quand même.
Ouais. Et alors, il restera forcément au Labour tous les gens qui sont pour le parti de l'étranger, finalement, pour plus d'immigration, aussi pour tout ce qui est.
C'est les Mélenchons locaux.
Voilà, les Mélenchons locaux, tout ce qui est relatif à la société, c'est-à-dire tous les mouvements LGBT, transsexuels, etc. Ça restera au Labour. Et puis ensuite, ceux qui ont simplement envie, en fait, d'avoir une sorte d'amélioration de leur niveau de vie, pour cela, ils peuvent.
C'est pas qu'ils ont une amélioration de leur niveau de vie, c'est que leur niveau de vie baisse à toute allure.
Ouais.
C'est pas.
Ouais.
Ils voudraient que ça s'arrête de baisser, surtout.
Oui,
je
déjà.
Crois,
oui,
parce qu'en France, on le voit très bien. En Angleterre aussi, on le voit très bien. Le niveau de vie des gens les plus pauvres depuis l'arrivée de l'euro ne cesse de baisser en Europe. Il y a un vrai effondrement du niveau de vie des classes les plus défavorisés, ce qui est incroyable, quoi.
Ouais. Et alors, récemment, il y a certains conservateurs qui ont décidé de rejoindre Reform.
Oui.
Donc, c'est le cas déjà de Tim Montgomery, qui fut conseiller de Boris Johnson et qui a été au parti conservateur pendant 33 ans. Il y a Lucy Allan, aussi, ex-députée conservatrice de Telford. Et il y a aussi Nick Kennedy, qui est un soutien financier habituel du parti conservateur. C'est un milliardaire promoteur immobilier qui rejoint Reform en tant que trésorier, avec l'intention, il a dit, avec l'intention de faire la plus grande levée de fonds jamais vue dans toute l'histoire du pays. Donc il y a une espèce de vraiment, il y a une poussée
et
derrière.
Ils ont un avantage. Ce qui est intéressant en Angleterre, c'est qu'ils, si j'ose dire, ils ont leur Trump à eux, ils ont Farage, qui est une espèce de un orateur magnifique, et il a l'habitude, et puis il est marrant. Et puis, quand il prend une bière dans un pub, il détonne pas, quoi. Vous voyez, je veux dire, il fait partie du paysage.
Ah oui, absolument, oui.
Donc, c'est le gars qui a commencé à travailler dans la City, mais qui était pas fils de duc, étant passé par Eton. Lui, il a commencé, je crois, à faire du trading sur les matières premières. C'est un mec de la petite classe moyenne, quoi.
Ouais.
Mais il a réussi déjà à faire sortir l'Angleterre de l'Europe, celui qui était à l'origine.
Ouais.
Il va peut-être réussir à faire sortir le socialisme d'Angleterre, ce qui serait un gros progrès.
Pour moi, c'est possible, déjà parce qu'il a, il a un petit peu de temps devant lui. Il y a cette fameuse pétition qui circule, qui fait beaucoup de signatures. Enfin, maintenant, ça s'est un petit peu arrêté pour faire des nouvelles élections. Je pense pas qu'il y aura des nouvelles élections samedi prochain. Mais enfin,
Première grave crise, le Labour ne peut pas agir. Ils sont tellement déconsidérés. On s'est rendu compte que celle qui est devenue ministre des Finances, Elle avait dit qu'elle était économiste en Écosse, je sais plus dans quelle boîte, et en fait elle était standardiste, quoi. C'était donc elle avait menti complètement sur son CV, donc
formidable. Et après, c'est aussi un parti dans lequel il y a encore, mine de rien, ils ont pas forcément des très bons politiciens comme nous, mais ils ont encore la coutume de démissionner quand vraiment ça va pas du tout. C'est ce qu'avait fait Rishi Sunak, il avait démissionné parce que juste dans l'opinion, c'était pas possible. C'est peut-être ce qui arrivera à Keir Starmer.
Mais si c'est pour mettre un autre corneau, la question c'est est-ce qu'il... Le problème, c'est le système d'élection des États-Unis en Angleterre, c'est uninominal majoritaire à un tour, c'est-à-dire que celui qui est en tête au premier tour, ben, il est élu, c'est tout. Donc, si vous avez 34, 33, 33, ben, le 34, il est élu partout, et ça peut vous faire une majorité de 400.
Ouais.
C'est ce qui s'est passé pour le Labour, mais en fait, ils n'ont même pas 30% des voix, quoi. Ils ont moins de voix. C'était le 400 députés, c'était le gouvernement travailliste qui avait le moins de votes en pourcentage de la population anglaise jamais.
Ouais. Bah là, c'est, selon les sondages, si on faisait l'élection aujourd'hui, c'est carrément ce serait carrément le troisième parti, quoi. Derrière les conservateurs et les réformes. Donc, il y aurait deux partis de, entre guillemets, de droite devant, et puis après, il y aurait le Labour. Donc, là, je sais même pas combien de députés ils auraient. Mais enfin, voilà, c'est pour dire que vraiment, le réforme a le vent en poupe, et ce qui lui manquait aux dernières élections, c'était un peu une sorte de légitimité pour vraiment prendre, en quelque sorte, la place du parti conservateur et puis des profils qui sont réformes compatibles aussi au Labour, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup parce que voilà, c'est exactement ce que montrent les élections de
c'est toute l'épine dorsale de l'Angleterre qui remonte vers Manchester, Liverpool, tout ça, c'est toute la zone industrielle qui est devenue une zone sinistrée, quoi.
Voilà, en fait vous prenez une carte des élections anglaises, vous les regardez sur Wikipédia et elles sont très bien, vous regardez les cartes des élections précédentes et puis vous regardez celle de 2019, bah là où on vote en bleu pas comme d'habitude, bah c'est justement en grande partie grâce au soutien de Nigel Farage, parce que d'habitude c'est là on vote Labour, et puis cette fois-ci pour Boris Johnson ils avaient voté conservateur, et ensuite aux dernières élections
Boris Johnson avait porté le Brexit aussi.
Oui, voilà, avec justement Nigel Farage, et il avait été soutenu par Nigel Farage, il avait accepté de pas participer à l'élection puisqu'il soutenait Boris Johnson, et puis là la dernière fois il s'est dit ça commence à bien faire.
Oui.
Et en plus de ça, maintenant aussi, comme il y a une nouvelle leader du parti conservateur, et j'ai l'impression que absolument personne ne la connaît, c'est une femme noire qui ma foi a l'air très sympathique, mais enfin j'ai l'impression que voilà, elle détonne pas du tout dans le paysage politique local, et en fait finalement Nigel Farage en profite énormément, puisque en fait on voit que lui en ce moment.
Surtout quand il y a des questions, etc., c'est toujours lui qui pose les questions à la Chambre des communes. Alors d'habitude, la Chambre des communes, si vous voulez, le parti d'opposition, ils sont assis là face à face.
Ouais.
Et il y a donc le parti d'opposition qui pose une question vicieuse au type en face, et le type celui-là se rassoit, l'autre se lève et puis répond. Et c'est assez rigolo parce que c'est en général, ils se mettent sur la gueule, et il faut avoir beaucoup d'esprit à ce moment-là.
Oui, absolument.
Et le bon Starmer, il a l'esprit d'un colimaçon, quoi. Il fait pas rigoler les Anglais, quoi.
Clair. Non, Nigel Farage a un très très bon profil, parce que comme vous le dites, c'est pas un type de l'aristocratie, c'est pas un conservateur classique, et à la fois il a réussi à se hisser dans la société par lui-même, puisqu'il a réussi à devenir trader à la City, et en fait il a quand même le côté anglais de base, c'est-à-dire on le voit totalement comment dire, en blouson de chasseur, on le voit prendre une pinte dans un pub anglais, rigoler avec n'importe qui. Vraiment, il fait, enfin, c'est l'anglais ultime, quoi. Voilà. Vraiment, quelqu'un qui me demanderait de définir un anglais, je dirais regardez Nigel Farage, quoi. Je saurais pas dire autre chose. Et il y a un autre pays dans lequel ils font ça, ce truc au Parlement de se répondre les uns les autres, c'est au Canada.
Et là aussi, bah, c'est bien sûr, c'était le Parlement canadien, il a été copié sur le Parlement anglais.
Voilà, exactement. Et donc, c'est ce qui se passe beaucoup.
Trudeau, il a l'air d'être sur ses fins. Hein.
Il a l'air d'être sur ses fins, effectivement.
Là, il a les amortisseurs à plat, là. On sent que ça carotte, quoi.
Dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est littéralement hier, ça parlait carrément de risque de démission pour Justin Trudeau.
Et parce que son ministre des Finances vient de démissionner, parce que le déficit budgétaire, ça va rappeler quelque chose de français, qui ne pouvait pas dépasser, c'était complètement déinscrit dans la peut dépasser 40 milliards de dollars canadiens. Il vient de sortir, c'était 60 milliards. Alors là, il y a donc eu un léger dérapage budgétaire qui rappelle certains souvenirs français,
ouais.
Et qui a été expliqué par personne et attendu par personne. Donc la ministre des Finances a été remerciée en quelque sorte, ouais. Mais elle avait pas, et comme c'était une fada, elle veut pas prendre un autre truc parce que elle, et donc ça veut dire que maintenant il a deux de ses ministres qui ont démissionné. Et il faut savoir que c'est très compliqué au Canada, mais il y a un parti, il ne reste au pouvoir que parce qu'il y a un petit parti qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, et dont le chef est un Sikh, vous savez,
oui,
il est toujours avec
absolument.
Un turban sur la tête, là. Et le Sikh en question, il a, en février, il aura atteint la limite pour toucher sa retraite de ministre.
Ah! D'accord.
Et donc tout le monde sait qu'il attend.
Ah, il attend juste ça, et puis ensuite.
Ensuite, il laissera tomber Trudeau.
Ouais, ensuite, Dieu reconnaîtra les siens, quoi.
Dieu reconnaîtra les siens. Et donc, il y a des gens mal intentionnés qui disent que puisqu'il a l'intention de trahir, ce que tout le monde sait, parce qu'il se prive pas de le dire, puisqu'il a l'intention de trahir, on va peut-être faire tomber le gouvernement avant qu'il ait sa retraite, quoi. Juste pour lui apprendre à vivre, quoi.
Ouais, ouais. Oui, alors effectivement, quand vous dites la ministre de l'économie a démissionné, Chrystia Freeland, et alors c'est pas rien, ministre de l'économie là-bas, c'est carrément le numéro 2 du gouvernement. C'est comme un peu le ministère de l'intérieur ici en France. C'est d'ailleurs il y a un titre officiel de vice-premier ministre, et donc elle avait ce titre et elle a démissionné. Donc c'est vraiment pour le Canada, c'est vraiment une information très importante. C'est pas l'équivalent vraiment du ministre des Finances pour nous en France. Et la cause est multiple, donc notamment voilà les histoires de déficit et puis aussi la façon de se comporter par rapport à Donald Trump, où Justin Trudeau est un peu perdu par rapport à cela. Il n'arrête pas de se faire bully sur Twitter par Donald Trump, qui parle à chaque fois du Great State of Canada. Il appelle Justin Trudeau le gouverneur de l'État du Canada.
Et parce qu'il a dit que si vous ne pouvez pas vivre sans nous vendre des trucs en nous spoliant avec des trop droits trop bas, etc., ben vous avez qu'à rejoindre l'Union des États américains et puis je vous nommerai gouverneur, quoi.
Voilà, absolument, c'est extrêmement drôle. Et puisque en fait Donald Trump voudrait faire dans l'idée passer les droits de douane du Canada et du Mexique d'ailleurs à 25%, et sachant que les exportations du Canada vers les États-Unis, ça représente 80% de toutes leurs exportations.
Bien sûr.
Et ça représente 20% de leur PIB. Donc en fait, s'il y a vraiment des droits de douane, je parle même pas forcément que de 25%, mais même à 15%, ça va faire très 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 mal au Canada. Donc,
et que les sociétés américaines de voitures, qui sont pas complètement idiotes, elles ont mis leurs usines de voitures qui étaient à Détroit, dans le Michigan, là, et ou bien elles les ont mises au Mexique et elles les ont mises au Canada, et ensuite elles ont poussé très fort pour qu'il y ait un accord de libre-échange.
Ouais.
Et donc, comme elles payaient beaucoup moins cher le travail dans les deux, ça leur permettait de. Et ce que veut faire ce bon Trump, c'est qu'il dit vous allez fermer vos usines là-bas et vous allez remettre chez nous. Quoi.
Ouais, tout à fait.
C'est un. Mais ce qui va se passer, je peux vous l'annoncer comme ça, parce que je suis quand même... J'ai regardé... Où elle est ma boule de cristal, d'ailleurs j'en
avais elle est juste derrière, là.
Ah bon, ma boule, il faudrait que je la sortir, mais... ma boule de cristal me dit que Xi, le Chinois, et Trump sont en train de se parler beaucoup, et ce que va sans doute demander à Trump à Xi, c'est de mettre les usines de voitures chinoises aux États-Unis.
Oui.
comme ça, il n'a rien à foutre de ce qui se passe au Canada. Les deux feront faillite là-bas, mais c'est pas son problème. Et lui, il aura des usines toutes neuves qui feront des belles voitures et qui sont pas chères.
De toute façon, oui, les constructeurs vont être un peu obligés s'il maintient si vraiment il met en place ses droits de douane, les constructeurs vont être absolument obligés de se remettre aux États-Unis. Sinon, il n'y a pas d'alternative.
Mais le pire, c'est que c'est Xi qui va mettre ses usines.
Ils vont faire encore plus de concurrence.
Mais c'est-à-dire que les voitures qui sont faites par les Chinois iront seront ensuite exportées au Canada et au Mexique à moitié prix. Donc les voitures. Les usines au Canada et au Mexique.
Doublement perdant.
Vont devoir fermer.
Ouais, c'est sûr.
C'est triste.
Ouais. Et au Canada, il y a le leader de l'opposition, donc du Parti conservateur, qui s'appelle Pierre Poilievre, qui est un type très éloquent, qui est assez classe.
No nonsense, on dit.
Voilà, c'est vraiment un chic type, j'ai l'impression. Lui, il est vraiment, il a le vent en poupe dans les sondages, il est largement devant. Et donc il y a des élections qui sont prévues en 2025, et ça pareil, ça aura lieu un petit peu plus tôt que prévu, si jamais il y a une censure du gouvernement.
Ça paraît tout à fait évident, et c'est un type... moi je l'aime bien, Poilievre. D'abord il a un joli nom, il doit descendre d'une de ses familles qui est arrivée. Vous savez qu'on a envoyé une trentaine, je sais plus combien on avait envoyé, 300 familles je crois, c'était Louis XIV qui avait fait ça au Canada pour eux. Et la quasi-totalité des Québécois, descendre de ses familles. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose, je vais dire quelque chose à nos auditeurs là, parce que ne dites jamais à un Canadien français qu'il est Canadien. Il est Québécois.
Ouais.
Donc si vous dites à un de ces gars qu'il est Canadien, il est fâché comme tout.
Donc si vous voyez
un type qui parle avec un accent un peu spécial, vous lui demandez s'il est Québécois, pas s'il est Canadien. Quoi.
Ouais. Alors je sais pas s'il est québécois, Pierre Poilievre.
Je crois pas, il doit d'origine, mais il parle le français parfaitement.
Oui, il parle français, absolument. Je vois souvent des vidéos de lui où il parle français. C'est sympathique d'avoir un type comme ça qui parle français.
Louis, mon fils, le connaît très bien avec sa femme. Ils sont très copains.
Ah oui.
Enfin, c'est surtout les deux dames qui sont copines.
ça arrange bien des situations.
Il est très sympathique.
On espère bien sûr qu'il fasse un score maximal. Aujourd'hui, si vraiment l'élection se jouait dans les prochaines semaines, il n'y aurait absolument aucun doute sur le fait que le Parti conservateur aurait une majorité. Et d'ailleurs, ça fait du bien d'avoir un type comme ça à la tête du Parti conservateur, parce que d'habitude, c'est un peu des vieux monsieur un peu ennuyeux, qui sont pas forcément très très réjouissants. Alors même si au demeurant, ils font pas forcément des mauvaises politiques, mais ils ont un peu du mal à se défendre finalement d'être conservateur. Et ce type-là, il a une sorte, de flegme qui est très appréciable.
Oui, mais c'est nouveau. Aujourd'hui, si vous voulez, les gens de droite, un peu partout dans le monde, compte tenu des résultats de la gauche technocratique ou social-démocrate, ils n'ont pas honte, quoi. Ils n'ont pas honte. Ils disent, dites donc, quand est-ce qu'on va se débarrasser de vous, quoi.
Au bout d'un moment, oui. La gauche est tellement désastreuse que finalement, on se dit, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de s'affirmer en tant que de droite, conservateur.
Surtout qu'il y en a deux ou trois qui ont réussi ici ou là. Vous savez, c'est ce qu'on me disait autrefois, c'est qu'on ne peut pas être socialiste, intelligent et honnête. Il faut choisir deux sur trois. Et je crois que la plupart des gens sont en train de se rendre compte de cette dure réalité, quoi.
Oui, effectivement. Et puis, d'un autre côté aussi, les gens de droite qui ont honte d'être de droite, n'arrêtent pas de perdre partout. Donc finalement, quitte à être de droite,
si
autant ne pas en avoir honte.
Pour des types incompétents, etc., autant voter pour le produit vrai plutôt que pour la mauvaise copie, quoi.
Oui, c'est clair.
C'est comme ça que Giscard s'était fait battre, parce que les gens avaient dit, tant qu'à faire d'avoir un socialiste étatiste, on va me nommer Mitterrand, tiens.
Oui.
Parce que Giscard, il était droite, il était libéral, comme moi je suis.
Ouais. Et partout dans le monde, ceux qui arrivent vraiment à gagner, c'est ceux qui font pas les choses à moitié, quoi.
Et qui défendent leur pays, c'est marrant, parce que à nouveau, si vous voulez, Giscard, quand il avait été élu, il avait fait son premier discours pour expliquer que la France était trop petite, qu'il fallait qu'on aille dans l'Europe. C'était enthousiasmant comme projet.
Oui, bien sûr. Ouais.
J'avais eu un grand coup de mou, là. Je m'étais dit, oh.
Ouais, c'est clair. Donc oui, c'est sûr, on voit partout, on a des énormes influences avec Javier Milei, avec le retour de Donald Trump, etc. C'est pas vraiment l'époque pour faire les choses à moitié, quoi, quand on est de ce côté-là.
En même temps, c'est pas vraiment à la mode.
Ouais, effectivement. C'était à la mode il y a quelques années, mais là, c'est vraiment...
C'était à la mode, ça avait commencé à tourner. Mais si vous voulez, mais la France est quand même toujours à l'avant-garde des combats d'arrière-garde. On est les derniers à comprendre.
Ah, oui,
pendant que les autres élisaient Thatcher et Reagan, nous on élisait Mitterrand.
On a un contre-temps.
On avait 15 ans de retard et on les a toujours.
Bah, on les a cumulés même. Hein.
On les a cumulés chaque fois. On a... Bah voilà, c'est comme ça. On a un génie particulier pour sélectionner des nuls.
Ouais, donc je ne peux qu'espérer que ce génie particulier va disparaître. Et puis que, de manière globale, quand je disais fin de la social-démocratie, c'est pas tellement une fin de régime en termes d'organisation des institutions politiques particulièrement, mais c'est-à-dire que ce sont des régimes politiques qui, sur le fond, disent qu'il y a une sorte de cadre idéologique immuable dans lequel on est obligé de réfléchir, on peut pas réfléchir en dehors de cette boîte, et cette boîte est en train de s'effondrer à une vitesse absolument faramineuse, que ce soit donc au Canada, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Allemagne, en France, oui.
Parce qu'il y a un peu de sous, c'est-à-dire que c'est ce que disait Madame Thatcher, les socialistes ne durent que tant qu'il reste un petit peu de votre argent à dépenser.
Oui.
Mais quand vous avez plus d'argent à dépenser, ben, ils tombent d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, partout, ben, on voit que la social-démocratie est en quasi-faillite. L'Angleterre est guère mieux que nous.
Absolument.
La France est en faillite. L'Allemagne va pas bien. Donc partout où vous allez, et puis on se rend compte que les seuls qui réussissent vaguement à redresser les finances publiques et à arrêter cette dérive perpétuelle de hausse du poids de l'État dans l'économie, bah, c'est la petite dame en Italie, là, qui a l'air d'avoir une grande tendresse pour Elon Musk.
Oui, absolument.
Chaque fois qu'elle le voit, elle est là, garçon.
Elle est extrêmement expressive là-dessus, elle fait pas semblant. Hein.
Elle fait pas semblant, et quand elle a vu passer, notre président lui avait fait un baise-main, j'avais l'impression qu'elle allait cracher par terre.
Quoi. Elle est très copine avec Milei aussi.
Donc il y a un certain nombre de gars qui... n'ont pas honte d'être italien, n'ont pas honte d'être... Donc ça me fait rigoler parce que on voit réapparaître, si j'ose dire, la prééminence des mauvais garçons.
Mmh.
Parce que Trump, c'était un gars, si vous voulez, qui, dans une assemblée social-démocrate, il détonne un peu.
C'est clair.
Milei, on peut pas dire qu'il soit comme tout le monde, celui-là non plus, avec ses cheveux dans tous les sens et tout. La petite mère italienne là, que j'aime bien, là, pareil, elle est... Quand elle avait dit « je suis femme, je suis italienne, je suis mère »,
ça a beaucoup résonné, ça, chez les Italiens.
Ça a beaucoup résonné chez les Italiens, tant plus qu'il n'y a pas beaucoup de mères. Donc, on revoit apparaître des espèces de gars qui ont du charisme. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, un jour, j'étais dans un restaurant à Londres, avec ma chère épouse. Tout le monde parlait, il y avait un bruit terrible au restaurant, vous savez, comme ça. Et puis d'un seul coup, la salle, c'est complètement... Il y a un silence complet. Plus personne ne parlait. Et ben, Madame Thatcher venait de rentrer avec Dennis, son mari, dans la salle. Et tout le monde était fasciné. Donc, ma mère me racontait quand il disait mon père était officier français en Syrie, qu'à un moment, De Gaulle était passé. Et qu'elle était tellement émue qu'elle n'avait pas pu se lever. Elle avait les jambes coupées, quoi. Donc, quand vous avez des gens, j'avais un de mes amis qui connaissait bien Pompidou, il me disait, mais avant, quand il était directeur général de la Banque Rothschild, n'importe quoi, quand il rentrait dans une pièce, quand même.
Il se passait quelque chose.
Il y avait. On sentait physiquement que c'était un type qui était au-dessus de la moyenne. Donc, c'est le retour du
charisme.
Du charisme. Et à ce moment-là, quelqu'un qui a ce genre de charisme est très facilement légitime.
Oui, c'est clair.
Parce qu'on sent qu'il est habité par quelque chose, un désir plus grand que d'être Premier ministre comme Bayrou.
Oui, il est pas là pour rien, quoi.
Et non, il est là parce que il est habité.
Oui, absolument, absolument.
Et, alors, je dis, de temps en temps, ça amène à un désastre, cette habitation par... Bien sûr, mais... On est arrivé à un tel degré de gris que revoir un type qui a du poil au pâte, je sais pas, c'est...
Oui, non, mais on est obligé dans certaines situations, il y a que des personnalités charismatiques qui peuvent espérer redresser le pays, quoi. C'est une certitude.
Et on accepte de lui obéir.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème.
Ouais.
Il n'y a pas de... Et on va pas lui mettre un coup de couteau dans le dos parce qu'on se dit, mais non, c'est lui. C'est amusant ce choix de gens qui vont les diriger par les autres, quoi. C'est quelque chose qui est... Je sais que ça met la gauche très mal à l'aise, mais c'est une réalité, quoi.
Ouais. Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit dans l'Occident de manière générale. À chaque élection, on voit un progrès, effectivement, des personnalités les plus charismatiques.
Les plus charismatiques, mmh, regardez. Et en plus, dans le monde, si, on peut dire ce qu'il veut, mais enfin, quand vous le voyez, vous êtes...
Oui, oui.
Et puis, Poutine, on peut dire ce qu'il veut aussi, mais enfin, apparemment, il a l'air de représenter le peuple russe. Modi en Inde... Vous envoyez quand même un paquet qui commence à apparaître partout, Farage.
Ouais.
Et ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, il y en a pas en France.
Non.
C'est bizarre, hein?
Non, il n'y a pas vraiment d'équivalent
en
France.
Où il est...
Non, effectivement, je vois pas vraiment d'équivalent. Évidemment, la première à laquelle on pense, c'est Marine Le Pen. Alors, qui a un certain charisme quand même, mais pour moi, c'est pas de la même trempe, tout à
non,
fait.
Non.
C'est...
Je sais pas, c'est très curieux ça.
Ouais. Ceux qui arrivent au pouvoir, c'est ceux qui arrivent à rendre peu charismatiques ceux qui sont actuellement au pouvoir.
Oui, mais on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Hein.
Oui, alors, mais je trouve que quand même en confrontation directe, Macron s'est toujours montré plus charismatique que Marine Le Pen.
Parce qu'il joue sur le côté qui est très sensible chez les Français, je suis plus intelligent qu'elle.
Oui. C'est très agaçant d'ailleurs.
Ce qui est très agaçant, mais. À la limite, il y en a un qui me fait rigoler, c'est le petit Tanguy, parce qu'il a un petit peu ce côté...
Il n'a pas trop de complexe
et il me fait rigoler. Bon, ouais. Je suis pas du tout d'accord avec ses opinions politiques, mais il me fait rigoler parce que il a pas honte d'être ce qu'il est, quoi.
Oui, effectivement, c'est pas... Encore une fois, c'est un peu un nouveau garçon.
Enfin, il est différent, quoi. Il a pas peur de ses différences. Donc... Ouais. Il y a Bardella aussi, qui a un certain... Qui a la chance d'être né de fils d'ouvrier à Saint-Denis, quoi. Donc ça c'est bien. Mais vous voyez, il y a Bardella qui a aussi un petit peu de charisme. Donc je sais pas trop bien, mais il est rare que la France se réforme si à sa tête il n'y a pas un chef charismatique.
Ouais. Malheureusement, parce qu'on aimerait que ce soit le cas, enfin que ça puisse être le cas, mais c'est pas possible.
C'est pas possible. Donc et pourquoi ça se passe? C'est parce que, alors j'invite tous les lecteurs que ça intéresse à lire le livre « Du pouvoir » de Bertrand Jouvenel, qui a été écrit en 45, où il décrit parfaitement cette espèce de hausse ininterrompue de l'État qui a lieu sans que personne le veuille. Vous voyez, c'est une espèce,
ouais, effectivement.
Une espèce de dérive, ça monte, et à la fin, tout le monde crève.
Ouais. C'est exactement ce à quoi on assiste, à une vitesse faramineuse.
Donc, lisez ce livre, vous comprendrez mieux les mécanismes qui permettent ça. Ou lisez Ayn Rand, La Grève,
ouais.
Parce qu'elle vous explique ça très bien aussi. Donc, ça a été bien décrit, ou même Tocqueville, ça a été très bien décrit par des très grands esprits, mais cette espèce de... C'est comme un cancer, si vous voulez. La société d'obéissance étouffe tout.
Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet.
C'est la fin d'une période historique, ouais, où l'État a été perçu comme la solution au problème d'inégalité.
Ouais.
Et avec cet État, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est dans le fond de couper toutes les têtes qui dépassaient. Et en coupant les têtes qu'ils ont dépassées, ils tuent toute possibilité de croissance. Donc on est dans un système maintenant où il faut redonner de la place à la liberté individuelle, ouais, à la désobéissance, au refus de la discipline qu'on vous impose, à demander l'abolition des normes. Donc, parce que toute augmentation... L'État, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est le monopole de la violence légitime. Hein. Donc, s'il y a une part de l'État qui arrive, je ne sais pas, dans les relations du travail, ils vont se servir de la force légitime pour imposer quelque chose que les gens ne demandent pas. Ouais. Mais ils le feront par la force. C'est-à-dire les impôts, la prison, etc. Donc il y a des tas d'endroits où l'État ne doit pas aller. Il doit être dans les secteurs régaliens. Mais il y a des tas où... Et finalement, son désir d'égalité qui le porte fait que il détruise tout. Et c'est là où on est en France. Ils ont réussi à détruire la France par cette recherche absolue de... Ben voilà. Donc il faut ramener l'État. Il y a une double fonction. Il faut ramener l'État dedans. Il faut donc le faire diminuer,
ouais,
et le renforcer très terriblement son centre.
Oui, absolument.
Il faut un État plus fort est beaucoup plus petit.
Oui.
C'est marrant.
Absolument. Je crois qu'on a conclu plutôt bien sur la social-démocratie. Je crois que ça fait une belle émission pour ces vacances. Et puis, bah, sur
et puis encore une fois, merci parce que.
Merci, bien
sûr. Ça fait quoi ? Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait 5, 6 ans, c'est drôle. Ah,
moi, ça doit faire depuis 3 ans et demi maintenant.
3 ans et demi, nous, on a commencé un peu avant, 2 ou 3 ans avant.
Ouais.
Et donc, ça fait 10 ans. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit ce matin, mais je le redis. On a commencé par l'écrit, puis on nous a dit vous devriez faire des émissions, on a fait des émissions. Puis on a fait des émissions, ils nous ont dit vous devriez parler plus de finances, etc. Donc on a fait l'université de l'épargne.
Ouais.
Et maintenant, on va s'en. Mais il n'a pas du tout question de laisser tomber l'Institut des Libertés. L'Institut des Libertés, on va essayer de brancher dessus de nouveaux trucs. Et celui qui sera branché l'année prochaine, c'est probablement des émissions sur la sécurité.
Formidable.
Qu'on fera avec Eric Refer, ouais. De façon à vous aider à comprendre les problèmes, d'abord les vrais chiffres.
Ouais.
Les problèmes, la façon dont ils peuvent traiter, la façon dont ça pourrait être traité par des gens. Parce qu'encore une fois, il faut que vous soyez informé sur l'économie, c'est ce qu'on essaye de faire, mais il faut que vous soyez informé aussi sur la sécurité, sur les mesures qu'on peut prendre, etc. Donc la prochaine broche de développement de l'Institut des Libertés, ce sera vers l'analyse des problèmes de sécurité.
Très bien, formidable. Ben sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances.
Et ben vous
un
aussi.
Joyeux Noël. Parce que
Noyeux Joël, parce qu'on n'a plus, plus le droit de dire Joyeux Noël.
Noyeux Joël et Joyeux Noël quand même. Si jamais vous êtes en retard sur vos cadeaux, n'oubliez pas qu'il y a quand même votre bouquin. Hein,
Et puis, on est achetable. Hein. Vous pouvez toujours nous envoyer de l'argent.
Alors, oui, tout à fait. Vous pouvez nous acheter pour Noël. voilà, nous pouvons être votre meilleur cadeau. Non, mais sinon, il y a tous les livres de Charles sur Amazon, dont le dernier quand même. Cessez de vous faire avoir, qui est disponible sur Amazon et dans les meilleures librairies. J'ai mon cousin tout à l'heure qui m'a envoyé une photo de votre bouquin à la Fnac de Lille. Donc, comme quoi, vraiment, il est partout.
Je suis même dans les maisons de l'ennemi.
Oui, bah oui. Il a quand même besoin de nos bouquins pour faire un petit peu de marge de temps en temps. Donc voilà, et puis bah sur ce, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est bah encore une fois de bonnes vacances, un joyeux Noël, joyeuse nouvelle année, et puis bah très bientôt sur l'Institut des Libertés.
Et à bientôt, merci encore, et bonne année, et bonne Noël.